C'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, la Turquie.
Oui, c'est ça, avec Ankara qui montre des signes d'impatience avec des menaces de plus en plus claires contre les milices kurdes, tout en tentant un rapprochement de plus en plus ouvert avec Damas. Alors les fronts se modifient en Syrie et pour la Turquie, c'est la stratégie du flou en avant, dit Lacroix. On va voir la logique quand même avec vous, Jana Jabour, bonjour.
Bonjour.
Depuis Beyrouth, merci beaucoup. Vous êtes enseignante en relations internationales à Sciences Po Paris, spécialiste de la Turquie et Moyen-Orient et auteur récemment de « La Turquie, l'invention d'une diplomatie émergente » aux éditions du CNRS. Alors, ces menaces du président Erdogan, elles sont là depuis une semaine. Hier, il s'était dit prêt à se débarrasser des milices kurdes en Syrie. Il y a déjà eu, juste, je le rappelle, deux opérations majeures de la Turquie en Syrie contre les Kurdes. Est-ce qu'il y a des raisons de croire à une opération imminente cette fois?
Oui, alors il faut voir que cette annonce faite par le président Erdogan rentre dans une logique de politique interne aussi. Il y a des vases communicants clairs entre la politique extérieure turque et la politique intérieure turque en ce moment. En annonçant une nouvelle opération militaire au nord-est de la Syrie visant les Kurdes notamment donc du PYG et du PKK, il s'agit tout simplement de détourner l'attention de l'opinion publique turque de l'intérieur vers l'extérieur, surtout à un moment où la Turquie connaît une crise économique et à un moment où le parti AKP et son président se préparent à des élections municipales en mars 2019. Donc en fait, en faisant planer le spectre d'un danger kurde à la frontière avec la Syrie, il s'agit de jouer la carte nationaliste pour gagner aux élections et pour donc rallier l'opinion publique autour du président et autour du parti au pouvoir.
Oui, c'est ça, l'AKP qui est allié au MHP dans cette alliance populaire et qui va aux élections en mars effectivement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons plus objectives ou sécuritaires, disons, dans cette idée de toujours, puisque c'est les mots qui ont été employés, couper ce corridor terroriste, comme l'appelle le président Erdogan, ou en tout cas on a l'impression qu'il n'en finit pas de devoir contrer ou prévenir le projet d'entité kurde?
Alors, il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement turc et le président, mais aussi l'état-major, sont tentés par la phobie kurde, c'est-à-dire par la peur qu'une éventuelle autonomisation des Kurdes de Syrie puisse avoir un effet domino à l'intérieur de la Turquie en poussant les Kurdes de Turquie à établir un même scénario, donc à établir une zone autonome aussi au nord-est de la Turquie. Et c'est pourquoi donc la Turquie est engagée dans de nombreuses opérations militaires en Syrie. Et ce qu'il faut clairement voir aujourd'hui, c'est que en raison de cette phobie de l'autonomisation des Kurdes en Syrie, la Turquie a procédé à une réévaluation de ses priorités à l'égard de la Syrie. Aujourd'hui, la priorité de la Turquie, ce n'est plus de renverser Bachar el-Assad, mais c'est plutôt de contenir les Kurdes et de sécuriser la frontière. Et donc, dans la logique de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, la Turquie est engagée, paradoxalement, dans un rapprochement avec le régime de Bachar el-Assad pour contenir les Kurdes du YPG.
Et alors, cette fois-ci, qu'est-ce qui aurait précipité ou qu'est-ce qui précipiterait une montée en puissance et puis une action militaire? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu un soldat turc tué la semaine dernière, ce qui appellerait quand même une réponse d'une manière ou d'une autre, ou bien cette fameuse question de l'accord de Manbij conclu avec les Américains et qui donne, disons, une certaine autonomie et latitude dans la région nord-syrienne aux Kurdes, au fameux YPG, justement?
Alors, aujourd'hui, les Turcs sentent clairement que les Américains ont consolidé leur poste en Syrie pour justement soutenir les Kurdes. Et cela renforce ce sentiment de peur et de phobie en Turquie. Mais en même temps, il faut voir que pour calmer les nationalistes en Turquie, le gouvernement turc est engagé, doit s'engager en quelque sorte dans une lutte contre les Kurdes. Parce qu'aujourd'hui, les nationalistes du MHP notamment voient d'un très mauvais œil les concessions données par le gouvernement turc aux Américains, notamment sur le sujet du pasteur américain qui a été détenu en Turquie pendant un moment et qui a été libéré. Donc pour calmer les peurs du parti nationaliste MHP avec lequel l'AKP est engagé dans une alliance électorale, il faut faire quelque chose, il faut s'engager dans une opération qui justement montre que l'AKP est toujours dans une position offensive et qu'il a un agenda qui vise à garantir la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de la Turquie.
Oui, donc encore une fois, d'un certain poids des raisons intérieures et encore une fois les raisons extérieures. Qu'est-ce qui quand même pousserait à une intervention militaire, c'est-à-dire à revenir sur cet accord de Manbij avec les USA, alors même que justement il y avait cette accalmie et cette normalisation avec la libération du pasteur Brunson depuis octobre et la levée des sanctions contre la Turquie. Qu'est-ce qui la pousserait à intervenir? Est-ce que c'est pas cette fameuse question des postes d'observation et le jeu un peu trouble que jouent les USA du point de vue de la Turquie qui se dit encerclée? Ça, c'était le ministre de l'Intérieur qui disait ça récemment.
Tout à fait. Justement, les Turcs ont peur de du renforcement des positions et des postes d'observation des États-Unis en Syrie. Ils voient très mal le double jeu des États-Unis qui, d'un côté, annoncent qu'ils sont engagés dans une alliance avec le gouvernement AKP, avec la Turquie en général, mais de l'autre côté, qui sont en train de soutenir l'ennemi numéro un de la Turquie, à savoir les Kurdes en Syrie. Maintenant, il faut savoir aussi que la Turquie est dans une logique d'inflation de la puissance. La Turquie se sent un peu omnipotente aujourd'hui en Syrie, surtout qu'elle est très très présente sur le terrain, elle est très influente sur le terrain. Aujourd'hui, non seulement la Turquie est influente à travers des opérations militaires en Syrie, mais aussi elle est influente sur le terrain syrien à travers des groupes qui lui sont affiliés et des groupes qui justement servent son agenda. Il s'agit notamment des groupes islamistes djihadistes, en l'occurrence Ahrar al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham et Jabhat al-Nusra, dont on estime la taille et le nombre à peu près 15 à 20 000 membres. Mais il y a aussi une minorité turkmène en Syrie qui est en train de suivre l'agenda de l'AKP et combattre aux côtés de l'AKP contre les Kurdes. Donc la minorité turkmène, c'est une minorité dont on estime la taille à 5 000 membres. C'est une minorité donc de citoyens syriens, de nationalité syrienne, mais qui sont d'origine ethnique turque. Et aujourd'hui, le gouvernement AKP a réussi à réveiller chez ces Turkmènes le sentiment d'appartenance nationale à la Turquie.
Et alors, justement, question de puissance, est-ce que la Turquie est en train de poursuivre à travers justement le soutien à ces groupes un agenda politique dans une éventuelle solution du conflit syrien? Ou alors, est-ce que, encore une fois, des buts stratégiques, disons, ou une confrontation? Est-ce qu'elle a raison, disons, de se croire encerclée par les États-Unis, qui, eux, utilisent ces Kurdes au sein des forces FDS, principalement contre l'État islamique?
Alors, il est clair que, justement, en soutenant des groupes en Syrie et en menant une sorte de guerre par procuration, la Turquie veut tout simplement consolider sa position en Syrie pour jouer un rôle important dans une résolution éventuelle de ce conflit. Donc la Turquie est en train de consolider sa place en Syrie tout simplement pour se poser en acteur incontournable de la solution en Syrie et pour être sûr que toute solution en Syrie respecte les intérêts, notamment les intérêts de sécurité nationale de la Turquie.
Quitte à rompre cet accord de Manbij et aller jusqu'à l'est de l'Euphrate, comme l'ont annoncé quelques groupes en Syrie en tout cas. Et alors justement, eu égard à cette stratégie là que vous nommez dans un article qui est paru dans Question Internationale, stratégie du grand écart syrien et en même temps une certaine instrumentalisation diplomatique du conflit syrien, est-ce que ça a été payant justement du point de vue des buts turcs? Est-ce qu'ils peuvent obtenir, disons, une place au sein de la nouvelle Syrie, si jamais il y a une solution?
Alors, il est clair que les Turcs maîtrisent l'art du grand écart et savent parfaitement jouer sur plusieurs tableaux. Ils savent maintenir leur alliance avec l'OTAN, maintenir leur candidature à l'Union européenne, tout en revendiquant le leadership du Moyen-Orient et tout en consolidant leur position, notamment, par exemple, sur le dossier syrien. Cette stratégie est payante parce qu'il est clair aujourd'hui que les États-Unis, l'OTAN et les membres de l'Union européenne considèrent la Turquie comme un acteur incontournable sur des questions politiques comme la résolution du conflit syrien, mais aussi sur des questions sécuritaires, donc par exemple la lutte contre le terrorisme islamiste, notamment le terrorisme de Daesh. et aussi sur des questions socio-sécuritaires, je dirais, comme par exemple la question migratoire. Donc aujourd'hui, la Turquie a réussi, grâce à ce grand écart, grâce à cette capacité de faire du jonglage diplomatique, elle a réussi à devenir un acteur incontournable de la scène internationale.
Et avec un certain nombre de coups tactiques. Alors dernière chose justement, concernant encore une fois ces menaces sur les Kurdes, ces pressions, quelle que soit la suite, est-ce qu'il n'y a pas des gains secondaires espérés par Ankara, comme par exemple prendre en otage cet accord de Manbij pour obtenir l'extradition qu'il souhaite de Fethullah Gülen, puisque ça traîne depuis longtemps avec les États-Unis et c'était de nouveau dans l'air du temps la semaine dernière?
Je pense que les Turcs quand même ont réalisé qu'il est impossible qu'ils obtiennent cette demande, qu'ils obtiennent l'extradition de Fethullah Gülen des États-Unis. Toute éventuelle opération militaire en Syrie répond aujourd'hui plutôt à une logique sécuritaire, à une logique de politique intérieure. Mais penser vraiment que les Turcs croient que les États-Unis vont accepter cette demande d'extradition de Fethullah Gülen, je pense que c'est quelque chose d'irréaliste.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup pour les explications aujourd'hui. Jeanna Jabour, je le rappelle, enseignante en relations internationales à Sciences Po Paris. Et puis on renverra à votre livre sur la page des enjeux internationaux. La Turquie, l'invention d'une diplomatie émergente, édition du CNRS, ainsi qu'à votre article sur les vicissitudes de l'engagement turc au Moyen-Orient dans la revue Questions internationales. Merci beaucoup et bonne journée.